Merci d'écouter Radio Okapi. C'est l'heure de vous informer.
Radio Okapi.
Okapi. Le journal Babel Pongo Massimango.
On en sait un peu plus sur la nouvelle épidémie d'Ebola déclarée en Ituri. Lors de l'annonce officielle hier, le ministre de la Santé a expliqué comment on en est arrivé là. Roger Kambara assure que les mesures sont prises pour y faire face, partant de l'expérience du pays dans ce domaine. Et dans ce journal, nous serons aussi sur terrain à Bounia, où certains habitants commencent déjà à observer des mesures barrières. L'Office congolais de contrôle vient de bénéficier d'équipements modernes pour ses laboratoires d'analyse de Kinshasa, Matadi et Kalemi. C'est le ministre du Commerce extérieur qui a procédé à la remise hier samedi à Kinshasa. Pour Julien Paloukou, le but du gouvernement est de renforcer la sécurité des consommateurs. Comme invité Rex Antoma, expert en désarmement, démobilisation et réinsertion des enfants, avec d'autres acteurs du domaine et la MONUSCO, il vient d'organiser un atelier de plaidoyer à Beni pour l'implication des autorités afin qu'il n'y ait plus d'enfants dans les groupes armés. Madame, Monsieur, bonjour. Le ministre de la Santé déclare officiellement une nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Ituri. Il l'a fait au cours d'une conférence de presse tenue hier samedi à l'immeuble du gouvernement. Selon les explications fournies, cette 17e flambée à souche Bougio a débuté après le décès d'un infirmier survenu le 24 avril à Bounia. Les autorités assurent qu'une riposte est déjà en cours malgré les défis sécuritaires et les difficultés de surveillance dans cette zone. Écoutons le ministre Roger Kamba, il revient sur les origines de cette nouvelle souche du virus Ebola et les mesures prises pour y faire face. Il est ici au micro de Christian Makasinga.
Un infirmier décède à Bounia d'une maladie qui n'est pas notifiée encore le 24 avril. Le corps est ramené dans la zone de santé de Mongualou et c'est lors des cérémonies funéraires que les gens pleurent en pensant que c'est une maladie mystique, tout le monde touche et c'est là que les cas commencent à exploser et le premier signalement c'est le 5 mai et 3 jours plus tard nos équipes ont déjà fait le signalement officiel et les échantillons sont prélevés sauf que on a cherché la souche Zaïre et c'était négatif et donc nous avons transférer les échantillons à l'INRB Kinshasa. Allons voir s'il y a d'autres choses. Et c'est avant-hier que nous avons la confirmation. Et les mesures sont déjà prises. Il y a déjà des avions qui sont déployés. C'est une zone d'insécurité. C'est un défi majeur. Parce que notamment la route de Mombasa, il y a beaucoup de groupes armés. C'est pour cela que ça augmente la difficulté dans la surveillance et dans la prise en charge de cette épidémie. Mais nous avons beaucoup d'habitude de travailler dans des zones difficiles. Et je crois qu'on va y arriver aussi.
Et sur place à Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri, certains habitants commencent progressivement à adopter des mesures barrières, tandis que d'autres poursuivent encore leurs activités sans réelle inquiétude. Pour de nombreux habitants interrogés, ces précautions visent avant tout à protéger leur famille contre la maladie. Reportage Jean-Claude Lokidile.
Dans plusieurs rues de Bounia, certaines personnes apparaissent déjà avec des cache-nez, d'autres circulent avec des flacons de désinfectants dans leur sac. Dans une pharmacie au centre-ville, nous rencontrons David Anguezou, venu acheter des masques pour sa famille.
Je vais acheter des casques, c'est pour ma protection personnelle d'abord.
Et dis-moi, signifie ma famille aussi.
Vous m'avez trouvé à la porte d'une pharmacie pour aller me ravitailler. À chaque fois, on a des contacts avec les gens, on se salit ou bien on se parle. C'est une mesure de prévention.
À quelques mètres de là, Sami Azabo, un autre habitant de Bounia, affirme lui aussi prendre très au sérieux cette nouvelle épidémie. Pour lui, la prévention commence d'abord au sein de la famille.
Non, à mes enfants, j'ai dit il faut se laver la main chaque fois. Il ne faut pas salir les gens, c'est mauvais. Et il faut éviter les contacts du corps à corps. Il faut porter déjà les cache-nez. Parce qu'à Mongualou, c'est très sérieux. Attention, parce que la maladie risque d'aller de quoi à un autre, se répandre pêle-mêle. On ne saura pas aussi éradiquer ça à si peu de temps.
Dans plusieurs pharmacies de Bounia, les vendeurs parlent déjà d'une forte demande en masques et produits désinfectants. Pendant ce temps, les autorités sanitaires appellent la population au respect strict des mesures barrières afin de limiter la propagation du virus dans la province. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
La réforme du secteur de la recherche scientifique est examinée à l'Assemblée nationale. Au cours de la plénière de vendredi, la députée nationale Dorothée Madi-Amamba a présenté une proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à la recherche scientifique et technologique en République démocratique du Congo. À travers ce texte, l'élu de Moamba à Kinshasa entend moderniser un secteur encore régi par une ordonnance loi datant de 1982 et confronté à plusieurs défis, notamment la faible valorisation des résultats de la recherche. La proposition de loi a été déclarée recevable puis envoyée à la commission socioculturelle pour examen approfondi. Que retient d'autre Kassam Zati?
Dans son exposé des motifs, Dorothée Madia souligne que le cadre légal actuellement en vigueur ne répond plus aux réalités actuelles ni aux exigences du développement scientifique, technologique et économique. La députée évoque notamment le désintérêt progressif pour la recherche scientifique, l'insuffisance des financements, la fuite des cerveaux ainsi que l'absence des mécanismes efficaces de protection des droits des propriétés intellectuelles. Elle dénonce également la forte dépendance du pays vis-à-vis des partenaires extérieurs et le faible lien entre les institutions de recherche et les secteurs utilisateurs des résultats scientifiques. À travers cette réforme, l'élu de Moamba propose de faire de la science, de la technologie et de l'innovation un levier de développement socio-économique national. La proposition de loi prévoit également la création d'une agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et d'une agence nationale des brevets chargée de protéger les innovations congolaises. Autre innovation majeure, l'obligation faite aux entreprises étrangères exploitant les ressources naturelles en RDC de collaborer avec des institutions publiques congolaises spécialisées dans la recherche scientifique dans le but de renforcer la souveraineté scientifique et technologique du pays.
Et dans la province du Olomami, 10 députés provinciaux ont introduit jeudi une motion de censure contre le bureau de l'Assemblée provinciale et reprochent aux membres du bureau notamment l'incompétence et le détournement. En réaction, le rapporteur de cette institution indique que les membres du bureau attendent sereinement la plénière qui va traiter de cette motion. Paula Mundanga nous en dit un peu plus.
L'Assemblée provinciale du Olomami compte 26 députés dont 5 membres du bureau. Les 10 députés pétitionnaires accusent les membres du bureau de plusieurs griefs. Les députés provinciaux Idriss Sengayolo, élu du territoire de Bukama, revient sur ces griefs qui ont abouti à une motion de censure contre le bureau de l'Assemblée provinciale.
Le président de l'Assemblée provinciale, Basile Muleba, travaille par défi, se substituant ainsi à la plaigne. Il y a plusieurs fois, il a violé les règlements intérieurs. Outre cela, il y a eu des cas de détournement dont le dossier est déjà à la cour de cassation. Nous constatons que depuis que nous sommes rentrés, le bureau est devenu totalement incompétent. Même pas en mesure d'organiser le plénière.
Nous n'avons pas pu joindre le président de l'Assemblée provinciale de Olomami. En revanche, les rapporteurs indiquent que tous les membres du bureau attendent sereinement la plénière pour présenter leurs moyens de défense face à ces accusations. Senghor Kabondo Senghwa.
Nous travaillons dans l'esprit de collaboration entre les élus du peuple, les administratifs, le personnel d'appoint. Il y a une franche collaboration. Le bureau est très serein. Les membres du bureau attendent de s'exprimer devant la plénière pour présenter chacun ses moyens de défense conformément à la loi.
Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Renforcer la protection et la sécurité des consommateurs en République démocratique du Congo, c'est l'objectif que se fixe le gouvernement en remettant hier samedi par l'entremise du ministre du Commerce extérieur des équipements ultramodernes au laboratoire d'analyse physico-chimique et microbiologique de l'Office congolais de contrôle à Kinshasa, Matadi et Kalemi. Julien Paluku affirme que ces nouveaux matériels sont capables de traiter plusieurs paramètres en simultané dans un délai plus court. D'autres détails avec Ella Chimbalo.
Selon le ministre du Commerce extérieur, ces matériels viennent améliorer la qualité des contrôles et des analyses et renforcer le respect des normes nationales et internationales. Julien Paluku annonce d'autres innovations.
Je suis heureux que nous disposions aujourd'hui de ces laboratoires ici à Kinshasa. On en dispose à Matadi, on en dispose à Kalemi et dans les 3 mois, on va en avoir à Lubumbashi avec les laboratoires à la fois physico-chimiques et microbiologiques. Donc la RDC est en train vraiment de renforcer ses capacités de contrôle.
Pour la directrice générale intérimaire de l'Office congolais de contrôle OCC, Christelle Mwabilou, l'acquisition de ces matériels de pointe représente une étape charnière dans la modernisation de l'OCC.
Ces équipements permettront non seulement d'accroître la fiabilité de nos résultats, mais aussi de renforcer notre contribution stratégique à la protection de la santé publique. Ces équipements destinés aux laboratoires physico-chimiques et microbiologiques constituent désormais un véritable levier d'innovation.
Dans un monde où les échanges commerciaux sont devenus de plus en plus rapides et complexes, la question de la conformité des produits est devenue une urgence, a indiqué le directeur général de Bivac, Olivier Laderrère.
Le péage au niveau de Kasangoulou au Congo central est suspendu pour 48 heures. C'est l'une des mesures principales prises hier samedi par le ministre des Infrastructures et Travaux Publics pour mettre fin au calvaire des usagers sur l'axe Kinshasa-Kasangoulou. Selon John Banzai, qui a effectué une descente sur le terrain, la route nationale numéro 1 ne répond plus à sa réputation de poumon économique. Ce samedi, le spectacle au niveau du péage de Kasangoulou était désolant. Des milliers de véhicules poids lourds et des camionnettes immobilisées par choc contre par choc. En cause, le goulot étranglement créé par les travaux d'agrandissement et de surélévation de la chaussée combinée à la lenteur du système de perception manuelle, situation que le ministre déplore. On écoute les explications de John Banza dans cet extrait que nous propose Jude Mista Bilanda.
À partir de maintenant, j'ai demandé, après avoir entendu les explications de nos experts, ici représentés par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, les techniciens nous disent qu'on peut stopper momentanément les travaux, passer par une sorte d'alternance des travaux pour que la circulation reprenne et que les travaux vont continuer de manière alternée. Ça, c'est la première chose et ça va se faire maintenant même. Deuxième élément, c'est que je viens de demander aux concessionnaires d'accorder une sorte d'exonération générale à tous ceux qui utilisent cette artère stratégique pendant 48 heures. Donc, on va suspendre le péage pendant 48 heures pour que nous puissions recouvrer la circulation et reprendre les travaux de manière alternée.
Notez qu'au-delà de l'urgence, le ministre John Banza annonce une phase de rigueur administrative. De la semaine prochaine, une évaluation complète de toutes les concessions routières sera lancée. Objectif, revoir les mécanismes de compensation et s'assurer que la modernisation des infrastructures ne se fasse plus jamais au détriment de la population. Justice, le verdict est tombé vendredi au tribunal militaire de garnison de Kisangani dans le procès fleuve qui opposait l'auditeur militaire et le ministère public à 84 militaires du 3415e régiment des forces armées de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'une unité initialement basée à Walikale dans la province du Nord Kivu. Comment se présente ce verdict et quels griefs sont finalement retenus, Jacques Mukonkole?
Le tribunal a retenu la culpabilité pour la majorité des accusés. Ainsi, 58 prévenus ont été reconnus coupables des faits mis à leur charge. En conséquence, ils écopent d'une peine de 3 ans de servitude pénale principale et sont condamnés au paiement de 300 000 francs congolais chacun au titre des frais de justice. Pour le reste de la troupe, le sort est différent. 16 militaires ont été purement et simplement acquittés par la juridiction militaire. Enfin, concernant les 10 derniers prévenus, le tribunal se déclarait non saisi, jugeant que la procédure de flagrance ne pouvait s'appliquer à leur cas. Pour rappel, ces 84 soldats avaient été arrêtés dans le territoire de Walikale avant d'être transférés sous haute sécurité vers Kisangani pour s'expliquer devant la justice. Ils étaient poursuivis pour des griefs lourds touchant directement à l'ordre de l'armée, indiscipline, rébellion et dissipation des munitions de guerre. Ce verdict marque ainsi la fin d'un feuilleton judiciaire suivi de près par la population locale. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, la société civile du territoire de Masisi alerte sur une forte dégradation de la situation sécuritaire entre le 1er avril et le jeudi dernier, le 14 mai. Dans un communiqué publié le même jeudi, cette structure fait état d'une dizaine de cas de meurtres, de plusieurs cambriolages ainsi que d'actes de violence généralisés. Elle dénonce également des affrontements armés ayant perturbé la partie hors session de l'examen d'État et déplacé près de 40 000 personnes dans Oufamandou et d'autres entités du territoire. Face à cette situation, son porte-parole appelle au rétablissement immédiat de la sécurité, à l'ouverture d'enquêtes indépendantes et à une assistance humanitaire urgente en faveur des populations affectées. Télésphore Mitondeke explique la situation au micro de Bernard Danyangi.
4 camps de meurtre de civils, dont 2 femmes, 1 enfant, à Remeka et Enviro, un groupement ou Famando Premier, entre le 6 et le 7 mai 2026 lors des affrontements entre l'AFC M23 et le Wazalendo. Ces mêmes affrontements ont occasionné la perturbation des examens d'état sur cette partie de Masisi et le déplacement d'environ 40 000 habitants vers quelques villages du territoire de Walika les voisins. 6 camps de meurtre, 12 camps de disparition forcée et 112 camps de cambriolage ont été enregistrés dans la cité de Sake et environ 4 cas de meurtre au village de Louchebere 2 en date du 26 avril 2026. Plus de 200 ménages ont été victimes de cambriolages nocturnes en commune rurale de Masisi en date du 27 avril 2026. Vu la gravité de cette calamité, la société civile exige le rétablissement très urgent de la sécurité. Des enquêtes indépendantes pour établir toutes les responsabilités de cette cruauté. Une assistance humanitaire d'urgence en faveur des populations qui traversent actuellement un calvaire humanitaire.
Actualité internationale.
En Corée du Sud, des milliers de personnes ont assisté hier au défilé de moines robots dans les rues de Séoul. Les 4 robots ont défilé aux côtés d'artistes, des danseurs et de longues rangées de lanternes de lotus illuminées. Vêtus de robes monastiques traditionnelles, les robots occuperont cette année le rôle symbolique de moines honoraires pendant les célébrations. Cette procession annuelle liée à la principale école bouddhiste de la Corée du Sud s'inscrit dans la volonté du bouddhisme sud-coréen de moderniser son image afin de séduire un public plus jeune.
L'invité.
Lutte contre le recrutement et l'utilisation des enfants dans les territoires du Nord Kivu a béni les acteurs de la protection de l'enfant en collaboration avec la section de protection de l'enfant de la MONUSCO ont organisé mardi un atelier de plaidoyer pour solliciter l'implication des autorités dans ce combat. Pour en savoir plus, nous recevons l'un des intervenants dans cette activité, Rex Atoma, expert en désarmement, démobilisation et réinsertion des enfants, s'entretient ici avec Marco Marufimbo.
Rex Atoma, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Pourquoi cet atelier que vous venez d'organiser à Beni?
L'activité d'aujourd'hui, ce que vous devez retenir, c'est que nous sommes venus faire un atelier de plaidoyer pour que les gouvernorats puissent s'approprier des activités des GTTC et redynamiser effectivement, n'est-ce pas, les activités aux fins de lutter contre le recrutement et utilisation d'enfants. Et au même moment, lancer l'activité de la sortie des enfants en territoire de Walikale.
Aujourd'hui, quelle est la situation sur le terrain des enfants associés aux groupes armés?
L'état des lieux est quand même, le résultat est là. Sauf qu'il y a deux choses que nous devrons ficeler, améliorer, afin d'atteindre l'objectif de la reddition n'est-ce pas, des enfants, ou si vous voulez bien, n'est-ce pas, un enfant zéro, n'est-ce pas, au sein de groupes armés. Et c'est ça la finalité. Il va falloir l'implication de tous. Comme vous savez que non, l'enfant est protégé par l'État, par la communauté et par la famille. La place de l'enfant n'est pas dans les groupes armés pour porter l'arme ou faire d'autres emplois au sein des groupes armés, mais c'est plutôt de rester dans la société, dans la famille, d'étudier pour son développement et pour garantir la survie et l'avenir, n'est-ce pas, de la République demain.
Et au niveau des communautés, que faudrait-il faire concrètement?
Effectivement, la communauté a une grande responsabilité, c'est celle d'empêcher à ce que non, leurs propres enfants puissent aller dans les champs des batailles, dans les champs des hostilités, parce que ce n'est pas leur place. Et donc, ils ont la responsabilité de retenir leurs enfants et de les faire comprendre que non, vous n'avez pas le droit d'aller dans les groupes armés parce que ce n'est pas votre place.
Alors, qu'attendez-vous du gouvernement provincial dans cette lutte?
Effectivement, il faut une collaboration parce que c'est une responsabilité. Et donc, le DDR est inscrit dans un élan de paix. Lorsqu'on est dans un élan de paix, il faut sensibiliser les uns et les autres au fin, n'est-ce pas, de respecter les minimums. Les minimums ici, j'entends de ce que nous parlons, n'est-ce pas, des engagements internationaux comme nationaux. Et dans les cas d'espèce, j'insiste sur le recrutement et utilisation d'enfants. Donc, aucun groupe armé a le droit d'utiliser les enfants. Et donc, c'est pour cela que nous lançons le message, nous lançons, n'est-ce pas, nous venons, n'est-ce pas, au travers de cette activité de plaidoyer, de sensibilisation, pour que chacun puisse prendre ses responsabilités afin de garantir la protection des enfants en les libérant, n'est-ce pas, au sein de leur rang pour leur retour en famille.
Zéro à fond dans le groupe armé, les délais, on n'en a pas toujours.
Effectivement, les délais, on n'en a pas toujours parce que nous sommes encore dans des confrontations. Et donc, il va falloir que chacun puisse prendre ses responsabilités. Même si on est dans des confrontations, mais éviter de recruter par force, éviter de recruter les enfants et d'utiliser les enfants, c'est celle-là, n'est-ce pas, qui constitue notre responsabilité première de protéger les enfants. Peu importe les endroits où on se trouve, nous n'avons pas le droit de pouvoir utiliser les enfants.
Rex Antoma, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Rex Antoma, expert en désarmement, démobilisation et réinsertion des enfants. Voilà qui met fin à ce journal préparé par Jude Mister Bilanda, mis en onde par André Mungu. Merci de nous avoir suivis et bonne journée dominicale.